C'est Radio Fanta, la radio de l'école des Terres Bleues de Fontani.
C'est rigolo.
Oh là là.
Hola.
Hello.
Guten Morgen.
Bonjour.
Hello.
Bonjour.
Bonjour.
Guten Tag.
Hey guys.
Good night. And
hi.
Ohayo.
Ciao.
Zao Shang Hao.
Salut.
Bonjour.
Good morning.
Dororo Hanko.
Selam.
Hey.
Karimera.
Privyet.
Selam alikum.
Aloha kakayaka.
Bonjour.
Bon matin.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Fanta, la radio des Terres Bleues de Fontani. Je m'appelle Eden, je vais présenter l'émission de cycle 3 de l'école avec mon amie Élise.
Bonjour Eden, le thème de cette deuxième émission est Fanta Cosmopolite. Oui, car Fontani est un quartier cosmopolite où se côtoient différentes cultures et plusieurs langues.
Au programme de cette émission, la découverte de différentes langues et différents pays, un sondage, un reportage sur une exposition, une présentation de livres, des paroles d'enfants, de la musique et plein d'autres surprises.
Pour commencer, voici une phrase dans différentes langues parlées par des élèves.
Voici la deuxième émission de radio réalisée par les grands de l'école des Terres Bleues à Fontani. Cette émission sera faite dans différentes langues.
Este es el segundo programa de radio producido por las creencias más grandes de la Escuela Terres Bleues de Fontanilla. Este programa será transmitido en varias lenguas.
This is the second radio program produced by the older children at the Terres Bleues School in Fontani. This radio show will be podcast in different languages.
هذا بوت راديو يديرو في فونتاني في مدرسة تربلو بلو للأطفال كبارين غادي يديرو في راديو
إن دومين بحش راديو ياس كتعوصة بزرطانان كلاس في مكتب لتر بلو فونتاني تابلت شلاس
هاردن أندرا راديو سانينين بروديسيرا أوف ستوريا ترنا بو تر بلو سكولان إي فونتاني
Jazist di Zweite Radio Sendung di von den älteren Schülern der Schule Terre Bleue in Fontani gemacht wurde. Diese Sendung wird in verschiedenen Sprachen gemacht.
Este es el segundo programa de radio producido por los niños mayores de la Escuela Terre Bleue de Fontani. Este programa se realizará en diferentes idiomas.
Justement, nous avons aussi fait un sondage sur les langues et cultures d'autres pays.
42 élèves de l'école ont répondu à notre sondage. Nous avons d'abord demandé aux élèves s'ils parlaient une autre langue que le français et si oui, laquelle.
Sur 42 élèves, nous obtenons une égalité parfaite. 21 parlent uniquement le français et 21 parlent une autre langue. La langue la plus parlée est l'arabe avec 71%. Les autres langues sont le dari parlé en Afghanistan, le portugais, l'espagnol, le russe et le suédois.
La deuxième question s'intéresse aux pays visités par les élèves. Seulement 14% des élèves ne sont jamais sortis de la France.
45% ont voyagé en Europe, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, en Suisse, en Écosse, en Angleterre, en Allemagne, en Grèce, en Sardaigne et à Chypre. 40% ont voyagé en Afrique, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Soudan, en Égypte et au Bénin. 9% des élèves sont partis dans le reste du monde, en Jordanie, en Syrie, en Afghanistan et à Bali.
La troisième question concernait la gastronomie et le plat d'origine étrangère préféré des élèves. 33% ont répondu à cette question. Le grand gagnant est le couscous avec 30% des suffrages, puis les plats d'origine italienne, les pâtes, la pizza et les arancini avec un score de 27%. Ensuite, les plats ayant recueilli de 1 à 3 votes. Le tagine, les tacos, la paella, le foutou, les nouilles chinoises, les cornes de gazelle et les macroutes.
Ce sondage montre bien que notre quartier est cosmopolite. Cela met aussi en évidence la mixité culturelle et linguistique qui fait la richesse de Fontanille.
Et maintenant, un moment de littérature où nous vous présentons un livre. Tu connais le titre, Eden ?
Je ne sais pas, je donne ma langue au chat.
C'est presque ça.
Bonjour, nous allons vous présenter un livre écrit par Massimo Semerano et illustré par Luana Vergari qui s'appelle Les langues de chat.
Les trois personnages principaux sont Olivia, son chat Loulou-chat et son ami Léon.
Pour vous expliquer de quoi parle ce livre, Clémence va vous lire la quatrième de couverture.
Les langues de chat traitent avec humour de la diversité linguistique et culturelle, en suivant deux enfants, Olivia et Léon, dans une enquête à travers leur quartier. L'album présente le monde dans sa pluralité linguistique, où s'entrecroisent les langues, les appartenances culturelles et les parcours de vie.
Voici notre avis sur ce livre. J'ai bien aimé le livre, surtout quand Loulouchat a eu des bébés et quand elle a pris le lit d'Olivia.
J'ai aimé car il y a plusieurs langues du monde dans le texte de ce livre.
J'ai beaucoup aimé ce livre parce que je trouve l'histoire intéressante car elle est menée comme une enquête.
Et maintenant, la lecture d'extrait du livre.
Ce matin, je me suis réveillée en retard, comme d'habitude. Quand je suis rentrée dans la cuisine, je me suis aperçue que 1. Mon lait au chocolat avait disparu. Oh là là ! 2. Toutes les boulettes de Loulouchat avaient disparu, elles aussi. Hélas ! 3. Loulouchat, lui-même, avait disparu. Punaise ! Je n'avais pas encore terminé mon avis de recherche pour Loulouchat lorsque Léon est arrivé et m'a dit « Mosu Maracas ». Moi, j'adore quand on dit « Mosu Maracas » car en albanais, ça veut dire que tous mes soucis vont bientôt disparaître.
Léon a tout de suite eu l'idée géniale d'aller demander à Omar, le monsieur qui a une librairie au bout de la rue. Il adore les chats, les livres, les mille et une nuits, la nourriture chinoise. Monsieur Omar mange du riz quand on est même au petit déjeuner. Malheureusement, il n'avait pas vu mon Loulouchat. Mais il est aussitôt parti chercher un vieux livre arabe qui s'intitulait « Qit », c'est-à-dire « chat ». Dans le livre, il était écrit que les chats adoraient flâner sur la pelouse en automne.
Moi, je suis toujours contente de rencontrer Madame Khadija. Elle a des robes magnifiques. Je lui ai raconté toute l'histoire de Loulouchat et elle m'a dit « Nijakuma yenono sana sago bala ». Sir Oliver nous a appris que ça veut dire en bambara « Quand le chat achète du lait, il en fait ce qui lui plaît ». Dans son enfance, il a vécu au Mali, Sir Oliver. Moi, j'ai tenu à préciser que Loulouchat n'a pas acheté du lait, il a volé le mien.
Tu sens cette odeur, Élise ?
Oui, ça sent drôlement bon.
C'est un plat traditionnel algérien fait par Myriam, une maman d'élève. Elle va nous donner la recette en arabe pour la refaire à la maison.
Mais comment allons-nous faire pour comprendre ? Je ne parle pas l'arabe, moi.
Ne t'inquiète pas, sa fille Naïla va nous la traduire en français.
Assalamu alaikum. سنقدم لكم حلوى تجوز الهند.
Bonjour, gâteau à la noix de coco. J'utilise les ingrédients suivants.
لهذه الوصفة يجب استعمال المقادير التالية: 52 غرام زبدة طرية، كأس مسحوق سكر، كأس دقيق ذرة، 2 حبات بيض، كأس مسحوق جوز الهند، ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، مربى المشمش. نحتاج إلى 250 غرام من الدقيق.
250 g de beurre ramolli, une petite cuillère à café de levure chimique, un verre de sucre glace, un verre de maïzena, deux œufs, un verre de poudre de noix de coco, 200 g de farine, de la confiture d'abricot.
في وعاء كبير نحتاج الى الى في وعاء كبير نحتاج الى خلط هذه العجينه. اليكم طريقه الاستعمال.
J'utilise les ustensiles suivants. Un grand récipient.
في وعاء كبير نقوم بخلط الزبدة الطرية مع مسحوق السكر نضيف البيض وكأس دقيق الذرة ونخلط جيدا مع إضافة الدقيق شيئا فشيئا حتى نتحصل على عجينة طرية بعدها نقوم بتشكيل كريات صغيرة الحجم في الأخير نضعها في الفرن على 180 درجة لمدة 20 دقيقة نخرجها من الفرن ونتركها تبرد نقوم بطليها بمربى المشمش ثم نرشها بمسحوق جوز الهند.
Voici la préparation de la recette. Dans le récipient, on mélange tous les ingrédients en rajoutant de la farine petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Après, on forme des petites boules rondes. Après avoir préchauffé le four à 180 degrés, on enfourne les gâteaux pendant 20 minutes. Une fois cuits, on laisse refroidir. Pour terminer, on badigeonne les boules de confiture d'abricot avec un pinceau et on saupoudre de la poudre de noix de coco dessus.
Chahiya tayyiba lil jami'. Shukran.
Il ne reste plus qu'à se régaler. Bon appétit. Merci.
Quelques élèves vont maintenant nous présenter les pays dans lesquels ils ont des racines ou qu'ils souhaitent vous faire découvrir.
Bonjour, je m'appelle Dania et je vais vous parler de l'Algérie car j'ai des origines algériennes et une partie de ma famille vit encore là-bas. La capitale de l'Algérie est Alger et les langues parlées sont l'arabe et le tamazight. J'ai choisi de vous présenter la Grande Poste, un monument emblématique du centre algérois. Son architecture est un véritable chef-d'œuvre avec ses arcs majestueux, ses mosaïques colorées et ses détails finement sculptés. L'édifice qui abrite les services de la Poste d'Alger a été construit en 1910 par les architectes Jules Voineau et Marius Toudoir. La place devant la Grande Poste est toujours animée. C'est un lieu incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir le patrimoine architectural et historique de la ville.
Bonjour, je m'appelle Nolan et je vais vous parler de l'Espagne, car mon frère apprend l'espagnol au collège et l'année prochaine nous accueillerons son correspondant. La capitale de l'Espagne est Madrid et la langue parlée est l'espagnol. J'ai choisi de vous présenter le flamenco, une danse folklorique créée au XVIIIe siècle par les Andalous dans le sud de l'Espagne. C'est à la fois un chant, une musique et une danse, presque une culture à part entière. Le flamenco se transmet de génération en génération. La danseuse de flamenco est appelée bailaora. Elle porte la tenue traditionnelle composée d'une robe colorée généralement rouge, blanche ou noire avec des volants et des chaussures à talons hauts. Le chant du flamenco est accompagné par des claquements de mains qu'on appelle palmas et une sorte de claquette faite avec les pieds qu'on appelle zapateado. Les castagnettes sont encore parfois utilisées pour compléter ces percussions. La guitare flamenca accompagne aussi ce chant et cette danse.
Bonjour, je m'appelle Shaïsa, je vais vous parler de l'Afghanistan parce que je suis née dans ce pays. À 7 ans, j'ai quitté l'Afghanistan avec ma famille quand les talibans sont arrivés au pouvoir. J'habite dans la capitale qui s'appelle Kaboul. Je parle dari, mais en Afghanistan, on parle aussi le pachto. En Afghanistan, on ne mange pas comme en France. On y cuisine un plat, souvent du riz, et on fait aussi du pain afghan, le naan. On mange par terre, on s'assoit autour du plat. Dans ma famille, on utilise des couverts, mais certaines personnes en Afghanistan mangent avec les mains. Il n'y a pas d'entrée comme en France. On mange un plat unique et parfois un fruit. Par contre, quand on invite des gens, on prépare plein de plats différents.
Bonjour, je m'appelle Kenan, je suis née à l'île Maurice et depuis que j'ai 5 ans, je vis en France avec ma mère. L'île Maurice se situe sur le tropique du Capricorne dans l'océan Indien. Il fait très chaud toute l'année, il y a des animaux tropicaux comme des tortues géantes, des poissons perroquets, des perroquets bleus. Sur l'île Maurice, il y a existé un oiseau très spécial qui s'appelait le dodo. Il était gros et lent, il ne savait pas voler. Il est disparu au XVIIe siècle, quand les Européens ont accosté sur l'île. Il a d'abord été chassé pour sa viande, ses œufs ont été dévorés par les rats et les chiens arrivés avec les bateaux.
Bonjour, je m'appelle Gabriel et je vais vous parler de la France, qui est mon pays d'origine. Paris est la capitale de la France et la langue parlée est le français. Je vais maintenant vous présenter un des symboles de la France, la Marseillaise. Elle a été écrite le 25 avril 1792 par Rouget de Lisle à la demande du maire de la ville de Strasbourg. Peu après la déclaration de guerre de la France révolutionnaire contre l'Autriche et la Prusse, dont les armées avaient envahi la France au nord-est. Elle s'appelle alors le champ de guerre pour l'armée du Rhin. En juillet 1792, les volontaires marseillais qui partent à pied pour Paris reçoivent les paroles qu'ils emprendront en route. Ils chantent ce chant de marche lorsqu'ils entrent dans Paris le 30 juillet. La foule est enthousiaste et le baptise alors le chant des Marseillais, puis la Marseillaise. Elle est déclarée chant national le 14 juillet 1795, mais n'est pas encore l'hymne national. La Marseillaise est interdite entre 1804 et 1830. Elle réapparaît après la révolution de juillet de 1830, qu'on appelle aussi les Trois Glorieuses, qui chassa le roi Charles X et plaça le roi Louis-Philippe Ier sur le trône. Ce n'est qu'en 1879 qu'elle devient l'hymne national officiel de la France.
Bonjour, je m'appelle Alban. Aujourd'hui, je vais vous parler du Portugal car j'ai des origines portugaises et je vais souvent rendre visite à ma famille dans ce pays. La capitale du Portugal porte le nom de Lisbonne. La langue parlée partout au Portugal est le portugais. J'ai choisi de vous présenter une fête traditionnelle portugaise. Le carnaval du Portugal remonte au XVIe siècle et reste la fête populaire la plus importante du pays. Il y a des défilés de chars, des danseurs de samba, des personnes costumées, des bals masqués, de la musique et de nombreuses festivités du nord au sud du pays. Inspiré du mythique carnaval de Rio de Janeiro, le carnaval est un spectacle unique. C'est un moment où tout est permis, où les identités se mélangent, où l'on rit, danse et chante sans retenue. C'est l'occasion de se plonger dans une culture festive où l'humour et la joie de vivre s'expriment sans limite.
Bonjour, je m'appelle Monica et je vais vous parler de la Suède. Je suis arrivée en France avec ma famille l'année dernière quand j'avais 8 ans. La capitale de la Suède est Stockholm et on parle le suédois. En Suède, il fait très froid, plus froid qu'en France, il y a beaucoup de neige. En hiver, les jours sont très courts et en été, il fait jour très très longtemps.
Bonjour, je m'appelle Ismaël et je veux vous parler du Maroc. Parce que mes parents sont nés là-bas et que j'y retourne souvent pour aller voir ma famille. La capitale du Maroc est Rabat et les langues parlées sont l'arabe et l'amazigh, que je sais parler. Le Maroc se situe en Afrique du Nord et j'ai choisi de vous présenter le désert du Sahara. Le désert du Sahara est le plus vaste désert chaud du monde. C'est une région où il ne pleut presque jamais. C'est un climat aride, il compte plus de 9 millions de kilomètres carrés de superficie, soit presque la même étendue que la Chine. Il s'étend sur 11 pays, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye, le Tchad, l'Égypte et le Soudan. On y trouve des déserts de sable, des montagnes, des plateaux rocailleux qu'on appelle des amadas et des regs. Des déserts de pierre, en été la chaleur est suffocante. Partout au Sahara, la moyenne des températures maximales du mois le plus chaud dépasse 38 degrés. Il existe une zone baptisée le triangle de feu, les températures dépassent les 50 degrés. Certains peuples nomades comme les Touaregs et les Sahraouis vivent dans le désert.
Bonjour, je m'appelle Yassir et je vais vous parler du Soudan, car j'ai des origines soudanaises. Mes parents sont nés au Soudan et j'ai aussi de la famille qui vit encore là-bas. Je vais parfois les voir. Les langues parlées au Soudan sont l'arabe littéral et l'anglais. La capitale est Khartoum. Je vais maintenant vous présenter un lieu important du Soudan, la cité de Meroé. Ce site archéologique est situé sur le Nil, le deuxième plus long fleuve du monde après l'Amazone en Amérique du Sud. Meroé est une cité antique, c'est-à-dire qu'elle date de l'Antiquité. Dans ce paysage semi-désertique, on y trouve des pyramides plutôt bien conservées, des temples, des palais et des bâtiments résidentiels, ainsi que des installations pour gérer l'eau. La nécropole royale, sorte de cimetière de l'Antiquité, a été découverte par 3 explorateurs français en 1822.
Pour poursuivre l'émission, voici la rubrique « Paroles d'enfant ». C'est quoi le langage ? Nous allons écouter les extraits d'enregistrement réalisés lors de notre dernier débat philo avec Hervé Brutinel de l'OCCE48.
Le langage. À quoi sert le langage ? On se donne 2 minutes pour réfléchir.
Le langage, ça sert à exprimer ce qu'on veut dire.
Le langage, ça sert à s'exprimer, à dire ce qu'on veut dire.
Le langage, ça sert à se faire comprendre.
Le langage, ça sert à communiquer.
Le langage, ça sert à communiquer et à dire qu'est-ce qu'on pense.
Le langage, ça sert à s'exprimer pour dire ce qu'on ressent.
Il y a différents types de langage, comme le langage des signes.
Le langage, ça sert à exprimer nos émotions, à parler avec les autres personnes.
Le langage, ça sert à se comprendre et à dire ce qu'on pense.
Le langage, ça sert à se comprendre, à s'exprimer, à dire aux gens ce qu'on pense, ce qu'on veut leur dire.
Il y a aussi le langage émotionnel, par exemple, quand on est triste, on sait sans parler que la personne est triste.
Le langage permet d'exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Est-ce que les mots, ils permettent de tout exprimer, à votre avis ?
Non, on ne peut pas tout dire. Il y a des trucs, on les ressent, il y a d'autres, on les montre sur son visage.
Moi, je pense qu'il y a des choses, on ne peut pas le dire. On n'arrive pas à s'exprimer avec des mots, des fois. Quand on est très, très triste, des fois, on ne peut pas s'exprimer avec des mots, même des émotions, des choses qu'on veut dire, mais on ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Donc, on ne peut pas dire ce qu'on veut à la personne.
C'est un peu frustrant, ça.
Quand on est en colère, on n'a pas toujours les mots pour expliquer pourquoi on est en colère.
Quand on est triste, on peut écrire.
Je reprends ce qu'elle a dit, Clémence, comme quand on veut s'exprimer mais qu'on ne trouve pas les mots, c'est agaçant et commencer à s'énerver. Donc, il faudrait prendre son calme pour vraiment réfléchir et trouver les mots.
Moi, je parle arabe à la maison et je prends des cours d'arabe pour savoir l'alphabet et comment écrire des mots en arabe parce que ça, je ne sais pas. Je sais que parler.
Moi aussi, je parle l'arabe à la maison, mais pas trop parce qu'en fait, il y a des mots trop compliqués. L'année dernière, j'avais pris des cours d'arabe, mais ça m'a pas. Enfin, en fait, c'était plus du langage soutenu qu'on apprenait là-bas et c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai arrêté. Mais sinon, on parle plus français à la maison qu'arabe. Mais sinon, des fois, par exemple, quand il y a mes mamies qui viennent, vu que mes mamies elles sont nées au Maroc, elles sont marocaines, simplement. Et en fait, ma mère et mon père vont parler marocain. Mais moi, des fois, je comprends pas parce que c'est trop compliqué.
Moi, avec mes parents, je parle afghan, mais avec mes sœurs, je parle français parce que quand je venais en France, mes sœurs sont petites et ne comprennent pas trop afghan.
Moi, chez moi, je parle français, mais je parle parfois un peu portugais pour parler comme ça, pour que j'apprenne un peu. Mon père, il me dit quelques mots de temps en temps, comme ça, j'apprends un peu plus vite. Puis de temps en temps aussi, on parle, on s'amuse à essayer d'échanger des phrases. Ensemble, et aussi je parle, ma mamie elle parle patois, du coup elle parle français mais elle parle aussi un peu patois, du coup on parle un peu patois parfois avec elle mais je comprends pas beaucoup.
Moi parfois les mots faciles à la maison on les fait en anglais.
Pour moi c'est très important d'être bilingue pour savoir parler deux langues.
J'entends ce que vous dites, je trouve ça me fait penser à quelque chose parce que je me dis il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre de nos racines. On a des racines, que ça soit du Portugal, de l'Afghanistan ou du Maghreb. Il y a des racines, donc le lien qu'on a avec la famille, avec nos origines. Mais il y a aussi peut-être des choses qui nous ont construits dans la langue. Je pense à ça parce qu'effectivement, vous le dites beaucoup, c'est un lien avec vos parents, c'est un lien avec l'endroit d'où vous êtes originaire. Et peut-être que la langue, elle fait un lien aussi par rapport à ça.
Nous sommes aussi partis en reportage à la maison consulaire pour voir l'exposition Chromos et Topos, qui présente les œuvres d'Armel Caron.
Où des couleurs, des souvenirs et des lieux dialoguent ensemble.
Bonjour, nous allons à la maison consulaire pour voir l'exposition Chronos et Topos d'Armel Caron. Nous allons poser quelques questions à Célia qui s'occupe de cette exposition. C'est parti!
Donc c'est une exposition qu'on appelle monographique, qui présente le travail d'une seule personne. Et cette personne, c'est Armel Caron. Donc Armel Caron, elle vit et elle travaille à Sète, une ville pas très loin d'ici, au bord de la mer. Peut-être que certaines connaissent.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, donc moi c'est Célia Trémory, je suis médiatrice culturelle pour l'association L'Enfance de l'Art et le Vallon du Villaret. Et donc mon rôle c'est de faire le lien entre les œuvres, les publics et les artistes. Et du coup, ici mon rôle ça va être de présenter aux enfants le travail d'Armel Caron et l'exposition.
Pouvez-vous nous présenter l'exposition ?
Donc, dans cette exposition, Armelle Caron, elle explore des souvenirs liés à des couleurs et à des lieux. Donc, elle a un attrait aussi autour de la carte et de la cartographie. Donc, ici, elle vient vraiment utiliser ses souvenirs et ses lieux comme une manière d'explorer des territoires et des espaces. Donc, elle nous plonge dans la couleur et dans les souvenirs par son travail. Voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Alors moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression qu'à la fois, je peux apprendre des choses aux enfants et aux différents publics, et qu'en même temps, eux, ils m'apportent aussi énormément, qu'à chaque fois, c'est vraiment un moment de partage et d'échange autour des œuvres d'art, et que les œuvres d'art, c'est quand même un moyen super pour activer des discussions, des débats et se poser des questions. Donc c'est un vrai outil dans l'éducation et pour la vie. Donc voilà, c'est ça qui me plaît.
Merci.
Merci à toi. Au tout départ, elle a fait des affiches, des posters qui se présentent comme cela, où à chaque fois, elle relie, elle rassemble deux souvenirs qui n'ont rien à voir entre eux au départ, donc deux couleurs, et elle en fait ces affiches-là avec un souvenir d'un côté et un souvenir de l'autre. Donc vous voyez, c'est des affiches qui n'ont pas vraiment de sens, puisqu'on peut les lire dans les deux sens. Est-ce que l'un ou l'une de vous veut bien nous lire ce souvenir ? Vas-y.
Émilie se souvient du rose carreau cassé sur la terrasse de Sète.
Donc ici, on a le rose caricaté.
Est-ce que cette exposition t'a plu ?
J'ai trouvé cette exposition intéressante car j'ai bien aimé le concept d'associer une couleur à un souvenir.
Oui, j'ai bien aimé que l'artiste mette à notre disposition des livres qui l'ont inspiré et nous laisse les manipuler.
Quelle est ton impression sur cette exposition ?
J'ai bien aimé de pouvoir participer à l'œuvre d'Armelle Caron.
Tu as aimé l'exposition ?
J'ai bien aimé l'exposition car certaines œuvres étaient sur des vidéos. Les couleurs des fils de laine qu'on voyait sur les vidéos s'étiraient, s'allongeaient sur les murs grâce à la peinture.
Nous avons aimé l'originalité du dispositif peinture et vidéo qui s'associe.
Tu en as pensé quoi ?
J'ai bien aimé parce que le dispositif était original. La peinture et la vidéo s'associent bien.
J'ai trouvé cette exposition magnifique car le mélange des couleurs et des souvenirs m'a procuré de la joie.
Et pour finir, une chanson qui nous montre bien que notre langage français s'est enrichi au fil du temps de mots originaires d'autres langues. Écoutons Polyglotte d'Henri Dès par la chorale de cycle 3.
Moi, j'ai parlé toutes les langues, moi, j'ai parlé les langues du monde entier, j'en savais rien. Mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie.
J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais. J'ai des baskets pour faire mes petits trajets. Un anorak, mot qui vient des Esquimaux. Un anorak pour quand il fait pas beau.
Moi j'ai parlé toutes les langues, moi j'ai parlé les langues du monde entier, j'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie.
Les spaghettis, mot qui nous vient d'Italie, les spaghettis me mettent en appétit. C'est le yaourt, mot qui vient de Bulgarie, c'est le yaourt, mon dessert de midi.
Moi j'ai parlé toutes les langues, moi j'ai parlé les langues du monde entier, j'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie.
J'achète au kiosque, mot qui nous vient de Turquie, j'achète au kiosque mes journaux favoris, sans un copec. Mot qui nous vient de Russie, sans un copec, je peux pas faire des folies.
Moi j'ai parlé toutes les langues, moi j'ai parlé les langues du monde entier, j'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie.
C'est sur un yacht, mot qui vient du hollandais, c'est sur un yacht que je passe le mois juillet. Grâce au judo, mot qui nous vient du Japon, grâce au judo, je ne suis plus un poltron.
Moi j'ai parlé toutes les langues, moi j'ai parlé les langues du monde entier, j'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin,
ça va changer ma vie. Par cette chanson, mot qui nous vient du français, par cette chanson, je peux dire désormais, je suis polyglotte. Mot qui vient du grec ancien, je suis polyglotte, et j'ai pas que les copains. Moi, je sais parler toutes les langues, moi, je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie.
J'espère que vous avez apprécié notre émission. Nous vous disons à une prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés.
C'était Radio Fanta.
Radio Fonta, une émission proposée avec le soutien du ministère chargé de la ville, le préfet de la Lozère, dans le cadre du quartier prioritaire de politique de la ville, quartier 2030.